Nous avons rappelé quelles étaient nos priorités, nos engagements, et que nous n'étions pas prêts à nous vendre. Et que s'il n'y avait pas de concessions qui étaient des concessions remarquables pour les Françaises et les Français, eh bien nous étions prêts à nouveau à prendre nos responsabilités, y compris par la censure.
Voilà, vous venez d'entendre Olivier Faure après sa rencontre ce matin avec le ministre de l'économie et la ministre des comptes publics évoquer les concessions qu'il attend. Ça va être le thème du face à Duhamel. Est-ce que pour les concessions qu'il attend dans la perspective d'une négociation et d'un accord pour faire un budget avec François Bayrou? Julien Aubert, bonsoir, vice-président Les Républicains, bonne année.
Bonsoir et meilleurs vœux également.
Bonsoir Alain Duhamel et meilleurs vœux.
Bonsoir, bonne année à vous, à tous et à ceux qui nous écoutent.
Et puis, je sais pas si
et
ça
même va... à ceux qui ne nous écoutent pas.
Mon cher Alain, est-ce que ça va être le budget de la dernière chance pour François Bayrou? Parce que là, il faut qu'il tracte, qu'il négocie. Dites-moi.
Écoutez, c'est difficile, très difficile, mais moins difficile que pour Michel Barnier. Et il y a un chemin qui est étroit, très étroit, mais moins étroit que pour Michel Barnier.
Pourquoi ?
Alors, un, parce que tout le monde, aujourd'hui, n'a pas envie du tout du même budget, mais que tout le monde considère qu'il faut un budget, qu'on ne peut pas se passer d'un budget, et que faute de budget, tout se dérègle, la consommation, la production, les investissements, et les agriculteurs sont bien placés pour savoir que les mesures ne s'appliquent pas, y compris celles qui ont été prises, et ne peuvent pas. Donc, premièrement, le parti, la personnalité qui bloquerait tout, comme l'a fait Marine Le Pen avec Michel Barnier, probablement, les Français lui en voudraient beaucoup. La deuxième chose, c'est que si, après la censure de Michel Barnier, après les résultats des élections, et à son tour, dans les deux mois, donc avant que le budget soit adopté, François Bayrou était renversé, ça serait plus simplement, à mes yeux, mais ça on va en discuter, une crise politique, ça serait une crise de régime, c'est plus grave. Puis la troisième chose, c'est que c'est pas ce sont pas les mêmes interlocuteurs. Les interlocuteurs, cette fois-ci, ça n'est pas le Rassemblement National comme avec Michel Barnier, c'est le Parti Socialiste. Et au sein du Parti Socialiste, vis-à-vis du Parti Socialiste, la différence, c'est que Michel Barnier, avec le Rassemblement National, égrenait progressivement des propositions ou des concessions, et que cette fois-ci, François Bayrou va présenter un ensemble de propositions immédiatement, globalement. Donc les choses sont différentes. Je répète, ça ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir.
Moi, je suis un peu moins optimiste que vous, Alain.
Bah, je suis quand même extrêmement prudent.
Oui, mais vous êtes encore très optimiste.
C'est le début de l'année.
C'est le début de l'année, ce sont les bonnes résolutions. Je vous souhaite un bon budget 2025. Non, je crois que pour moi, il y a dans cette affaire quand même une ambiguïté que depuis le début, j'ai soulignée sur ce plateau et que Madame de Montchalin a encore soulignée. Elle dit, écoutez, il faut un budget pour la France. Et quelque part, elle appelle à une espèce de solution technique en disant à chacun, ce ne sera pas un budget de droite, ce ne sera pas un budget de gauche. Voilà, chacun va mettre un petit mouchoir sur ses lignes rouges. Bon, on va respecter nos convictions, mais on va essayer de faire en sorte que le pays fonctionne. Et ça, c'est le produit d'un gouvernement qui serait un gouvernement technique et qui dirait, ben voilà, il faut un budget technique. Mais dans le même temps, il y a une volonté politique. On voit bien qu'on préfère parler à certaines forces plutôt qu'à d'autres. On voit bien qu'il y a l'idée d'esquisser, je ne sais pas si on peut l'appeler encore un socle commun, mais d'élargir le domaine de la lutte en appelant le Parti Socialiste à rejoindre ceux qui soutenaient autrefois Michel Barnier, sans perdre d'ailleurs peut-être les grenouilles qui sont sur la droite de la brouette qui pourraient vouloir partir. Je crois que ces deux axes sont inconciliables et que on ne peut pas avoir un gouvernement qui se dit politique, qui dit j'ai un budget, j'ai des priorités, j'ai des choses que je veux faire, et de l'autre côté, faites tous un effort, votez quand même, non. Laissez-moi gouverner s'il vous plaît, parce que je suis Premier ministre, il faut me laisser gouverner. Je crois qu'il y a depuis le début une contradiction dans les termes.
C'est un très bon argument de séance, et on voit que vous avez l'habitude des séances.
Plus beaucoup.
Bah si quand même.
10 ans.
À la Cour des comptes, il y a des séances.
Il se trouve que par ailleurs j'ai dû jouer un travail, mais j'en fais pas jamais état sur le plateau télé.
Bref, c'est un bon argument de séance de dire on peut pas s'adresser à tout le monde comme Amélie de Montchalin l'a dit, mais en réalité c'est ce que j'essayais d'expliquer. L'interlocuteur principal, l'interlocuteur privilégié, l'interlocuteur prioritaire, ça n'est plus le Rassemblement National avec Michel Barnier qui par téléphone discutait point après point, semaine après semaine. avec Marine Le Pen, c'est le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, à ma connaissance, il ne cherche pas la crise de régime. Le Parti Socialiste, il veut pas de démission de Macron. Le Parti Socialiste, il a pas du tout envie d'être dans la majorité. Il est un adversaire de la majorité. Mais on lui propose un paquet de, disons les choses, de recul ou de compromis par rapport au budget Barnier, au lieu de les saucissonner, comme l'avait fait Michel Barnier, ce qui a à chaque fois été obligé de lâcher quelque chose. Puis qui, à qui...
Ça veut dire que Bayrou est en train de gauchiser le budget Barnier pour que les socialistes ne votent pas la censure.
Alors, il faut pas tourner autour du pot. S'il fait des compromis, il fera des compromis. À s'il gauche. Fait des propositions, il fera des propositions. Il les fait au Parti Socialiste. Donc, ça va gauchir.
Mais alors, attends, il est LR.
Ça va gauchir.
Vous allez faire quoi, vous, les LR?
Le problème, c'est que quand
vous allez soutenir ça.
Vous allez découper le saumon, le saucisson. C'est parce que je sors des fêtes.
Des
vous allez découper le saucisson. Mais vous savez, nous, on n'est pas stupides, hein. On est un boîte de droite. On va prendre nos lamelles de saucisson.
Personne ne vous a dit que vous étiez stupide.
Parfois, vous savez, on dit qu'on est la droite la plus bête du monde. On met, ce qui n'est pas tout à fait faux parfois, on met de la glu sur les lamelles de saucisson et on va reconstituer la taille du saucisson. Et là, on va s'apercevoir que si on a effectivement, c'est un boa qu'on veut nous faire manger, il est peu probable
Par exemple, la réforme des retraites à 64 ans, pardon.
Se mettent à voter, par exemple, des hausses d'impôts ou des choses comme ça.
Oui, mais la réforme des retraites à 64 ans, ça fait partie des concessions remarquables demandées par Olivier Faure. Peut-être une suspension de cette réforme des retraites. D'accord, mais est-ce que la droite peut l'accepter?
Bah, d'accord ou pas d'accord, c'est pas nous, mais...
Non, mais si François Bayrou dit d'accord...
C'est pour engager... Non, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. Il faudra 6 mois discuter et voir. Mais que tout ça mène à un gauchissement du budget, c'est vrai, avec quand même une grande limite, qui est l'idée qui était l'inverse, paradoxalement, chez Michel Barnier, l'idée qu'on augmente le moins possible les impôts. D'ailleurs, vous avez bien vu, vous connaissez ça par cœur, que dans les présentations qui ont été faites, il y a proportionnellement plus d'objectifs sur la réduction des dépenses que sur l'augmentation des impôts.
Oui, mais
bon, et que paradoxalement, Michel Barnier, alors que votre famille est contre l'augmentation des impôts, c'est une de ses convictions.
Oui.
Michel Barnier était pour plus d'augmentation d'impôts et moins de réduction de dépenses, et que là, c'est l'inverse.
Disons que...
C'est vrai ou pas, ce que je dis?
Oui, mais je pense pas que ce soit...
J'aime bien quand vous...
Mais je pense pas que... Oui, vous aimez bien quand vous dites qu'on est d'accord avec vous, mais je pense pas que ce soit un sujet... Pour moi, c'est pas un sujet de conviction. C'est que depuis 30 ans, on fait la même chose. On a des finances publiques qui sont dans le rouge, on dit on va les rétablir, on va faire des économies, et puis à la fin, c'est quand même un peu plus facile d'augmenter encore un peu plus les impôts, plutôt que de trouver les économies. Et donc, moi, c'est pas une question de je pense, si vous voulez, que c'est très bête, les finances publiques. Hein. Il faut équilibrer. Bon, je crois que si on
c'est
se met...
C'est très bête, mais on n'est pas doué pour ça, visiblement.
Mais parce que si on se met comme postulat de départ qu'on ne peut pas augmenter les impôts, parce que ça viendra un jour, et à force d'augmenter les impôts, un jour, on sera à un plafond, il y a la courbe de l'affaire qu'on nous explique en économie, où se retourne contre vous. Vous avez déjà une partie du pays qui fonctionne en marché noir, parce que la TVA, les travaux sur la TVA, etc., je pense qu'il y a plein de gens qui ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Donc, continuons comme ça, et on va voir comme en Italie, une partie de la France qui fonctionnera totalement...
Souterrainement.
Ça n'est
L'Italie, ils arrivent à faire baisser leur déficit. Hein.
Oui, parce que...
Je dis ça, je dis rien, mais ils vont être aux 3%, eux.
Je ne sais pas comment ils ont fait. Peut-être que Mme Meloni n'a pas que des mauvaises... pas que des défauts, mais... Donc, si vous voulez, comme postulat de départ, moi, je pense qu'on devrait dire on n'augmente pas les impôts. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de rigueur.
J'en reviens à ce que je disais. Michel Barnier... À regret, bien entendu, mais à regret, augmenter plus les impôts qu'il ne baisser les dépenses, et les augmenter substantiellement. Et que là, on verra bien à l'arrivée, hein, je ne préjuge pas du résultat des négociations qu'il va y avoir. Mais l'idée de départ, en tout cas, c'est on augmente le moins possible les impôts et on diminue le plus possible les dépenses.
Oui, mais on en parle pas, ça, la diminution des dépenses.
Je sais bien, très flou.
Je
sais bien, évidemment, ils sont au début des discussions, et le budget est le budget
pour donner une piste. Madame Rochelle a dit qu'il n'y a aucune mesure emblématique.
Non, dans l'immédiat, franchement, Autant ils ont intérêt à indiquer des pistes aux socialistes, autant ils n'ont aucun intérêt à commencer à dépiauter ce qu'ils vont faire.
Oui, mais
d'abord, pour une très bonne raison, c'est qu'ils ne le savent pas encore.
Oui, mais vous voyez,
ils arrivent.
Ils arrivent. Tous ces gens-là, on nous a dit que c'était un gouvernement de poids lourd qui avait déjà gouverné.
Personne n'a jamais dit, vous le savez parfaitement, personne n'a jamais dit que c'est un gouvernement dans lequel chaque poids lourd arrivait avec sous le bras un budget total, et qu'on pouvait d'ailleurs imprimer et distribuer à tous les Français. On n'en est pas là. On a deux mois pour ça. Mais on peut avoir des principes pour faire ça.
Vous voyez, Alain, c'est là où moi je ne suis pas optimiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce. C'est que tout le monde dit on va faire des économies sur le budget de l'État. La réalité, c'est que l'État est à l'os. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'investissement, quasiment plus. C'est que du fonctionnement. C'est très difficile de virer les fonctionnaires pour des raisons juridiques. Il y a les collectivités locales, mais on sait que ça a un impact aussi sur l'économie, même s'il y a des économies à faire. Et puis après, l'éléphant dans la pièce, c'est le système social français qui est financé par l'impôt.
C'est le système de santé, notamment.
Oui,
et les retraites.
Oui, mais là, il faut suspendre. Alors, cette
l'idée, c'est que une évolution de la réforme des retraites, qui d'ailleurs apparemment serait plutôt en direction de la réforme par point.
Oui, c'est ce que souhaiterait Bayrou. Oui.
Mais moi, c'est l'idée que j'ai défendue face au projet qui était présenté.
La CGT est contre.
Tout ça, c'est... Oui, la CGT est contre. La CFDT était pour. Bon, mais ça a déjà été précisé, ce serait à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation des dépenses supplémentaires.
On rêve. On ne va pas faire une grande réforme des retraites avec un système à points, sans majorité, alors qu'Emmanuel Macron, qui en avait une, en a été un foutu de la faire.
C'est très possible.
Pourquoi je ne suis pas optimiste? Parce que l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le fait que notre système social n'est pas viable en l'État, qu'il fait dépérir l'État régalien parce qu'il y a des transferts d'impôts pour compenser, je dirais, l'absence de cotisation sociale du fait d'un crash démographique, parce que ce qui se passe, c'est que le vieillissement de la population induit des dépenses de retraite et de santé de plus en plus massives.
Qui reposent sur ceux qui travaillent.
Qui financent, sur ceux qui travaillent par l'impôt ou par le déficit, c'est-à-dire la dette. Et que c'est ce gouvernement très faible qui est dans l'incapacité soit de réformer structurellement, soit d'en débattre, puisque vous avez des gens qui, idéologiquement,
mais ça ne peut pas tenir jusqu'à 2027.
C'est tout à fait vrai.
Nous verrons si c'est ce que les marchands disent.
C'est tout à fait vrai que le déséquilibre démographique augmente, en France moins qu'ailleurs, mais en France beaucoup plus qu'avant. Et donc, de ce point de vue, l'équilibre du système des retraites est encore plus difficile. Mais comme vous le savez, le vrai handicap qu'on a en France par rapport aux pays comparables, et a fortiori par rapport aux pays qui ont eux aussi des systèmes sociaux protecteurs, moins protecteurs que les nôtres, mais protecteurs. Le vrai handicap qu'on a, c'est le pourcentage de la population au travail, et en particulier le pourcentage de la population au travail entre 58 et 62 ou 64 ans.
Les seniors.
Et ça, c'est un handicap. Et c'est un handicap terrible. C'est une cause de déséquilibre.
C'est la question des retraites.
Et Alain Duhamel, revenons au point de départ de notre discussion. Budget de la dernière chance. C'est-à-dire que s'il arrive à cet accord, cette négociation, un pacte de non-censure, est-ce que ça garantit la non-censure du gouvernement Bayrou ou pas?
Non, ça ne gagnera pas de garantie.
Si les socialistes ne censurent pas, ça passe.
Non, mais si les socialistes ne censurent pas, le budget passe. Mais il n'y aura pas une garantie de non-censure inconditionnelle.
Je dirais même plus que c'est l'inverse.
Une fois que le budget passe, il est tranquille, François Bayrou.
Non, c'est l'inverse. Si la gauche a fait un effort en disant « Ok, on accepte de vous laisser vivre votre budget », ils vont, par phénomène d'équilibrage, dire on va se récupérer un capital politique en montrant qu'on n'est pas, coactionnaire de ce gouvernement. Dès qu'il y aura un texte un peu clivant, ils vont se faire un malin plaisir de revenir dans l'opposition.
Ils ont quand même besoin du Rassemblement National pour ça aussi. Hein. On va rappeler que pour la censure passe, il faut que la gauche et le RN se mettent d'accord.
Toute la gauche.
Oui, mais ils ne voudront pas un moment ou un autre.
Toute la gauche, c'est pour ça que le Parti Socialiste, dans l'histoire, devient la clé, comme l'a été auparavant.
Bien sûr, mais que ce soit ces formations politiques, à un moment ou un autre, ils ne voudront quand même pas apparaître comme les soutiens du gouvernement Bayrou.
Mais d'ailleurs,
ce sera que provisoire, effectivement.
Alors, on va de toute façon, jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau dissoudre, on ne va vivre que dans du provisoire, c'est une évidence. Et la garantie, je le disais en commençant, la garantie de survie du gouvernement n'est pas du tout assurée, en aucun cas. Si dans un premier temps le budget passe, le climat va quand même se modifier. Bon, bon. Et je suppose, puisque, comme vous le disiez, il y a un certain nombre de poids lourds expérimentés dans ce gouvernement,
pas moi qui le disais, mais
que,
bon.
Que les thèmes qu'ils mettront en avant ne seront pas des thèmes qui seront les plus propices à la structure.
Imaginons que le budget soit une galette. Oui. Mais regardez là, qui est en train de la couper. C'est le président de la République. Oui. Vous voyez, alors là, c'est une belle galette, remarquez ça. Là, il y a des parts pour tout le monde.
Oui.
C'est en ce moment à l'Élysée, vous le savez, vous connaissez, c'est la tradition de la galette des rois à l'Élysée avec les apprentis, avec les boulangers, les pâtissiers.
Et vous savez qu'il n'y a pas de fèves.
Toute la profession.
Oui, il n'y a pas de fèves.
Oui. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que ce soit le président qui l'ait.
Parce que c'est une galette républicaine.
Ah, mais oui.
Non, parce que c'est une galette républicaine, et donc il n'y a pas de fève, il ne faut pas désigner de roi.
Oui, il devrait savoir que la fève est une tradition qui remonte aux Saturnales romaines et qui n'a aucun rapport avec les Capétiens, mais enfin, c'est pas grave.
Mais c'est, surtout, ce n'est pas du tout nouveau.
Et en plus, c'est de la frangipane, et moi, je suis du Sud. Mais, d'accord.
Ça y est, vous lancez le débat.
La brioche avec les
attendez, on peut lancer le débat entre Alain Duhamel et Julien Bert.
Un débat, là.
Oui, je sais.
Moi, je suis tout à fait pour la
frangipane. Et vous êtes. Pas du tout.
Julien Bert et moi sommes du Sud, et c'est la brioche. Avec le petit sucre,
on peut, on peut être du Sud et avoir bon goût.
Ah oui, à Avignon, vous trouvez, vous trouvez les meilleures brioches. Mais pour moi, c'est une équipe, pour revenir au fond du sujet, c'est un équilibre de la terreur, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant jusqu'à la dissolution, on va jouer à chien et chat, c'est-à-dire que le gouvernement ne va pas faire de choses trop clivantes pour ne pas donner un bâton pour se faire battre, et je pense que l'opposition socialiste n'ira pas trop loin pour empêcher, je dirais, la conflagration.
Bon,
une fois que le président...
Donc le budget va passer.
Oui, le budget.
Et oui,
mais
c'est
même
ce
après,
que...
ça va rester en équilibre. Et ensuite, il va y avoir effectivement la possibilité pour le président de dissoudre, mais vous avez montré Emmanuel Macron, lors de ses vœux, on voit bien qu'il est à la recherche de son moment gaullien. C'est-à-dire que là, il a parlé
avec
du référendum. Alors, référendum sans prononcer le mot, d'ailleurs. Et il avait, je ne sais pas si Alain, enfin, le juriste l'avait noté, il avait fait une allocution en janvier où il avait paraphrasé l'article 16 en disant « Je suis le garant du bon fonctionnement ».
Ça, c'est un fantasme.
Il est à la recherche de la balle qui va lui permettre de revenir dans le jeu pour se repositionner, soit par le référendum, soit par une législative, soit par l'article 16, que sais-je, pour reprendre de la hauteur et en espérant que le bordel ambiant vienne quelque part rétroagir sur lui pour lui redonner une forme de majesté.
Alors,
voilà, ce qui nous ramène à la fève.
Alors qu'il soit à la recherche de quelque chose qui puisse rehausser son statut et surtout lui rendre une influence politique qu'il a perdue, je suis d'accord, c'est certainement ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il le peut ça n'est en tout cas pas évident. Et plutôt que la question de savoir si à partir de juin il pourrait faire davantage ce qu'il veut, le problème sera déjà qu'il faudra faire face à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui souhaiteraient le pousser à la démission.
Il a autant de crédit qu'après la fuite à Varennes, on est d'accord.
Bon, et ben voilà.
Merci Alain Duhamel, merci Julien Aubert.